Et nous en sommes à la face B de la deuxième cassette. Et je vous disais qu'après avoir vérifié que ce titre « Mission du Père » était bel et bien choisi par le Père lui-même, qu'il le tenait même à cette expression et ne se gênait pas pour l'utiliser, j'ai immédiatement fait une géniflexion intérieure devant le Père et je lui ai dit « Père bien-aimé, tu vois plus clair, plus loin et plus avant que nous. L'ajustement à faire est donc sûrement de notre côté et non du tien. Et depuis lors, je suis personnellement à l'aise, heureux, enchanté même de cette expression « mission du Père ». S'obstiner à y voir maintenant un obstacle majeur équivaudrait à maintenir que le Père qui a eu, lui, la puissance, le droit et la liberté d'envoyer en mission Jésus et l'Esprit-Saint, serait, lui, incapable de prendre une initiative d'envergure, d'accomplir par lui-même une grande œuvre? Allons donc. À mon humble avis, il faudrait vraiment se traîner sur le plan théologique et être joliment lourdeau spirituellement parlant pour s'accrocher ainsi les pieds dans les fleurs du tapis. Ne désespérons pas, mes frères et mes sœurs. Croyez-moi, il y aura à nouveau des saints et à la fois théologiens capables, un bon jour, de nous réconcilier tout ça. D'ailleurs, le dictionnaire est très clair. Selon le dictionnaire, le premier sens du mot « mission », c'est « charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de faire quelque chose ». Et en ce premier sens, qui dit « mission » dit « envoi », »,« députation », »,« délégation ». On est chargé par quelqu'un d'accomplir telle ou telle mission. Mais le même dictionnaire prévoit d'autres sens. Et au dictionnaire, le mot « mission » a comme autre sens « but ». Tâche que l'on se donne à soi-même, avec le sentiment d'un devoir à accomplir. Action, but auquel un être semble destiné. C'est ainsi qu'on parle de la mission d'un artiste, de la mission d'un pays, de la mission d'une autorité. Donc, en ce sens différent, beaucoup plus large, absolument rien n'empêche le Père de se donner lui-même une tâche à accomplir en ces derniers temps exceptionnels, d'en prendre la libre initiative, sans être pour autant envoyé par qui que ce soit, de pouvoir réaliser cette mission à sa guise et de la nommer de la manière qu'il le veut bien. Et c'est bel et bien lui encore, et je le répète, qui l'a étiqueté à sa guise de cette appellation déjà bien connue de mission du Père, et à l'occasion de mission des derniers temps. Passons maintenant à la troisième et dernière mini-objection. Le fait que l'annonce de cette grande mission du Père ne soit pas venue d'abord par la ou les voies, V-O-I-X ou V-O-I-E-S, dites officielles en Église. Vous en conviendrez avec moi, c'est tout un constat à faire. Je vous regarde, auditoire visible, y en a-t-il parmi vous qui se portent volontaires pour venir tenter de répondre à cette objection de ma part? Je constate que personne n'accourt. Vous en conviendrez avec moi, ce n'est pas évident et facile à expliquer en quelques mots. En effet, on se serait normalement attendu, vous comme moi, que l'annonce des signes des derniers temps, d'un tel avènement comme celui du retour de Jésus, ainsi que des quatre autres événements, le renouveau de l'Église, la fin du règne de Satan, la purification intense des âmes et l'ère nouvelle d'amour et de paix, ainsi que l'annonce de la mission du Père, soit captée et discerné, puis proclamé au monde et en Église, d'abord et surtout par des sommités, membres de la hiérarchie, ecclésiastique, religieuse ou même charismatique, donc par des personnalités prestigieuses, par leur titre, leur fonction ou leur qualification. Ne le pensez-vous pas, vous aussi? Or, il est déjà acquis, au contraire, que la mission du Père, pour ne parler que d'elle, qui englobe d'ailleurs tout le reste, son annonce, sa mise en pratique, sa contagion, semble s'être fait en commençant par les plus simples et petits devant Dieu, à la base et au cœur même du peuple de Dieu, avant même que dans les chefs-lieux de l'Église, où des mouvements pourtant dits de renouveau, avant qu'on semble être au courant, qu'on comprenne et surtout digère cette grande initiative du Père. Je vous avoue que c'est très, très fertile en leçons possibles à tirer en et par l'Église. Je vais, si vous me le permettez, pour alimenter notre réflexion, lancer comme ça trois hypothèses parmi toute une foule d'autres. Et personnellement, je vous avoue, dès le point de départ, que je serai prêt à appuyer chacune des trois, tant je les trouve toutes trois, justifiables et plausibles, possibles. Ces trois hypothèses me sont montées dans le cœur durant un long temps de réflexion sur le sujet, dans la prière, l'écoute et le jeûne. La première hypothèse vraisemblable. Le Père voulant à la fois, en ces derniers temps exceptionnels, faire vite et faire bien, ne pouvait à la vérité, se basant sur l'expérience séculaire de l'Église, passer par ses voies, VOIX ou VOIES, dites officielles. C'est peut-être brutal comme première hypothèse, du moins de prime abord, mais qui d'entre nous ne connaît pas déjà les lenteurs, les langueurs et les longueurs proverbiales de tout l'appareillage de l'Église face aux décisions importantes? Pensons seulement aux canonisations, à l'étude des révélations, des grâces mystiques, des charismes, des prophéties. À la vérité, l'Église visible officielle a reçu de Dieu au cours des siècles beaucoup plus de révélations, d'inspirations et d'expressions du vouloir divin qu'en fait, à cause de ses limites, de ses pauvretés, de ses faiblesses humaines, elle a été capable d'en accueillir, de retenir, d'intégrer et de promulguer. J'en suis absolument sûr, un grand nombre de ces CES ou S majuscule ES, ces révélations et désirs divins, se sont perdus en cours de route, un peu malgré elle et souvent à son insu. N'en cherchons pas les coupables, mais évoquons seulement les deux principales causes pour en tirer au moins quelques leçons utiles pour l'avenir. D'une part, notre manque déplorable en Église de simplicité et d'humilité, de docilité et de disponibilité, de petitesse d'âme et de cœur d'enfant, pourtant indispensable à ceux et celles qui, au fond, voudraient bien capter, décoder et retransmettre fidèlement le Seigneur. Et d'autre part, notre surabondance d'esprit humain, fort, savant, raisonneur et analytique. Autant de talents admirables, mais trop souvent mal utilisés et pas assez sanctifiés et purifiés. Très souvent, hélas, quand nos hommes et femmes d'Église ont fini de tout analyser, de tout filtrer, de tout soupeser, d'expliquer et de synthétiser ce que Dieu nous révèle et nous demande, c'est parfois déjà bien dilué et atténué, voire même rapetissé et ou rapiécé. Je n'hésite donc pas à souligner que ce qui constitue le magistère et le vouloir officiel de l'Église visible à l'heure actuelle demeure sûrement en deçà de ce que le Seigneur, au cours des 20 derniers siècles, a souvent tenté de nous communiquer en fait d'enseignement et de vouloir nouveau. On n'a pas tout bien capté, accueilli et retenu. Loin de là, il faut bien le reconnaître à notre courte honte. L'ignorer ou repousser cette hypothèse serait puéril et conséquent. Il n'est donc pas surprenant qu'en tout temps et tout lieu, Dieu tienne tant à son privilège absolu de révéler à qui il veut tout ce qu'il veut, quand et comme il veut, et ce, au su et vu ou non de l'Église visible officielle. Rien ni personne ne peut ni ne doit lui en contester le droit ou l'opportunité, ni tenter de l'empêcher, c'est plus qu'évident. Une deuxième hypothèse. Le Père aurait-il, par hasard, voulu, en procédant comme il l'a fait, contourner ainsi ceux et celles que Jésus appelle les sages et intelligents? Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Vous savez comme moi que l'Église en est toujours infestée de ces sages et intelligents, dans tous les coins, à tous les niveaux, et qu'il n'y a rien qu'on puisse y faire, sinon de les éviter autant que possible, et de les inviter à voir, une fois que les confirmations et les fruits sont là, sous nos ou leurs yeux, à faire le constat. Un bonjour, soit dit en passant, j'enregistrerai sûrement le vin nouveau du Seigneur que son esprit m'a mis au cœur au sujet de ces sages et intelligents. Je vous assure qu'il les dépeint bien, nous les explique avec infiniment d'amour, une bonne pointe d'humour. Les sages intelligents, on le sait, ce sont des gens qui sont habituellement doués, qualifiés, parfois bien expérimentés en sciences humaines, et même en sciences ecclésiastiques ou religieuses. Quand on les écoute, ils font habituellement montre de savoir et de pouvoir, c'est évident. Du haut savoir, comme on dit souvent. Mais, oui, mais, comme leur vie en Dieu n'est souvent pas au diapason de leur science de Dieu, quand arrivent des révélations ou des inspirations divines, soit en direct à l'intérieur d'eux-mêmes, soit en différé par l'intermédiaire de d'autres messagers ou messagères du Seigneur, il se produit généralement chez 90 à 95% des personnes dites sages et intelligentes, au sens donné par le Seigneur dans l'Évangile. Il se produit d'étonnants et graves blocages soudains. Non seulement spirituels, mais j'ajouterais même, pour l'avoir souvent constaté, des blocages évidents d'ordre intellectuel et psychologique. Ils n'entendent pas et ne comprennent vraiment pas correctement ce qui est dit ou écrit. L'intègrent mal et le retransmettent souvent tout de travers. Il y a trois blocages que j'ai souvent remarqués chez les savants et intelligents, quand il s'agit de la vie spirituelle, du vécu à vivre. Premier blocage, c'est à la réception, au moment de l'accueil, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent. Il y a là toute une série de filtres qui se mettent en opération à cause de leur connaissance, de leur intellectualisme, de leur raisonnement, de leur méfiance, de leur esprit d'analyse et de critique. Là, déjà, tout n'entre pas correctement. Ensuite, à la digestion. Au moment d'intégrer le tout dans leur être et leur vie, règle générale, ils et elles éprouvent des allergies à tout ce qui est trop merveilleux, trop interpellant, trop exigeants, vraiment renouveau, et qui, surtout, peuvent remettre en cause leur vécu. Et enfin, à la retransmission, au moment où il et elle veulent partager ce qu'ils croient avoir assumé, ce qu'ils ont compris ou croient avoir appris et vécu, le contenu du message étant déjà dilué, atténué, déformé, il le filtre à nouveau par toute une série de calculs intéressés parfois. Quelles seront les répercussions de ce que je vais dire? Quelles seront les implications? Comment ça va être perçu? Comment on va m'étiqueter? Et alors là, troisième zone de blocage. Bref, après tous ces filtres à l'accueil, ces allergies à l'intégration et ces calculs au partage, vous pouvez bien vous imaginer que le message et, par ricochet, le messager sont joliment, on peut l'imaginer, au minimum défiguré, au maximum dénaturé. Un des exemples classiques de ce genre de réaction, on le trouve dans l'Évangile, il y en a plusieurs, mais Matthieu 12, 24. Les pharisiens venaient d'entendre que Jésus venait de guérir un possédé devenu aveugle et muet. Comprenez que pour eux, ils ne pouvaient pas accueillir ça. Ils ne pouvaient pas digérer ça. Ils ne pouvaient pas partager ça. Alors, vite, 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 les trois blocages jouant, ils disent, celui-là, Jésus, ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. C'est même pas intelligent. C'est même pas réfléchi. C'est même pas sage. Ça qui a sorti de la bouche des pharisiens sages et intelligents. Ce qu'on retrouve là, les filtres, les allergies puis les calculs. Ils ne pouvaient entendre, comprendre et apprendre ça, c'était trop conséquent et trop compromettant pour eux. Pour moi, en terminant cette deuxième hypothèse que le Père aurait voulu contourner les sages et intelligents, je vous avoue que je le pense de plus en plus. Il a voulu prendre les meilleurs moyens possibles pour que les sages et intelligents n'aient pas trop tôt la nouvelle de la mission du Père et la chance de s'en mêler de trop près. Mais maintenant qu'une multitude de simples et petits devant Dieu, à la grandeur du monde, ont accueilli, compris et bien vécu de manière libre, confirmée, c'est devenu irréversible. La partie est en quelque sorte déjà gagnée, puisque c'est à travers eux surtout, les petits et les simples, que le nouveau leadership spirituel s'en vient renouveler l'Église de bas en haut. Les sages et intelligents auront beau s'emporter, fulminer, argumenter, dresser tous les barrages routiers possibles, ce n'est qu'affaire de mois, ou de quelques années tout au plus, ils devront se rendre à l'évidence que la victoire des victoires est au Père, en son Fils par leur esprit, pour leur gloire et le bonheur de son peuple. Je lance une troisième et dernière hypothèse probable. En procédant ainsi, le Père bien-aimé n'aurait-il pas voulu aussi, en ces derniers temps, venir confirmer clairement que le véritable renouveau ou nouveau leadership spirituel en Église est déjà en plein essor et nous vient surtout de bas en haut. Personnellement, je le crois sincèrement et j'y vois un signe évident de plus. On le sait bien, la grave conséquence inévitable, ma foi, du fait que le véritable leadership spirituel ne vient pas des évêques ou des pasteurs, du moins avec autant de vigueur ou d'abondance qu'il le devrait, ou que le Seigneur le voudrait, c'est que lui, le Seigneur, doit alors passer par d'autres. Et c'est ainsi que bien des inspirations de l'Esprit, des prophéties, des visions, des grâces privilégiées nous arrivent de plus en plus, d'ailleurs et autrement. Le Seigneur ne demanderait pas mieux que de passer en première instance et surtout par les successeurs de ses apôtres et par les pasteurs et bergers. Il les a même choisis et appelés à cela. Mes chers frères et chers sœurs, avant de conclure ce chapitre 8, concernant les trois mini-objections possibles et probables, je tiens en résumé à dire trois choses. Primo, qu'il n'y a absolument rien dans tout l'enseignement reçu sur la mission du Père par cette grande mystique et instrument privilégié de Dieu, dont j'ai parlé dans la première cassette, qui vienne le moindrement en conflit ou en contradiction, soit avec l'Écriture sainte, soit avec les dogmes, soit avec la tradition en et de l'Église. Dans son initiative, le Père ne contredit rien de ce que l'Église visible et son magistère croient et enseignent. Il part même de cet acquis, connu jusqu'ici, qui devient donc pour lui un plancher, alors que pour nous c'était peut-être hélas déjà devenu un plafond, pour aller encore plus loin, plus haut, plus au large dans son partage avec ses enfants de la terre. Bienheureux sommes-nous de pouvoir le capter. Secundo, son message sur cette nouvelle mission du Père n'est en rien amoindri et n'a rien perdu de son importance, de sa substance, de son impact par le fait qu'il ait opté pour un instrument d'accueil et de transmission qui est humble, simple, non diplômé. On pourrait même dire que c'en est d'autant plus extraordinaire et probant, puisque la messagère choisie n'a aucune aptitude ou qualification personnelle pour avoir pu inventer, proclamer et expliquer un enseignement divin de cette envergure. Tertio, le seul petit malaise ou tiraillement qui va se faire sentir, ce sera au niveau de certains mots ou expressions ou même thèses de certains courants théologiques. Mais à nous, qui y croyons, qui vivons cette mission, qui en voyons les fruits et les grâces, de nous mettre en prière pour bien découvrir, avec l'aide de l'Esprit envoyé par le Père, comment nous ajuster, nous raccorder nous-mêmes avec ce nouvel héritage reçu du ciel. Je termine en rappelant que la théologie, on le sait, est une science humaine, même si elle porte sur l'étude des données et vérités divines. Tout en s'intéressant aux mystères confessés et possédés dans la foi, ce discours de l'esprit qu'est la théologie demeure, qu'on le veuille ou non, forcément incomplet, également faillible. Bien entendu, la théologie n'a ni le droit ou le pouvoir de prendre Dieu en otage, de le réduire au silence, ou de prendre contrôle de sa parole. La théologie n'est pas au-dessus de Dieu, et l'on peut même prévoir des cas où Dieu et sa parole ne seraient pas d'accord avec le langage théologique et nos informations actuelles. Et voilà, passons maintenant, enfin, à la troisième partie. Je vois, au cadran que le temps file, nous n'aurons de toute évidence pas le temps de parcourir toute cette matière. Mais allons-y au chapitre 9. Les divers types possibles d'appel. Comment se développe en chacun et chacune de nous cet appel et ce goût de plus en plus fervent pour la mission du Père? Bien entendu, comme je l'ai expliqué au tout début, comme ce sont des appels adressés directement à l'intime de chaque être, les scénarios vocationnels sont variables à l'infini et peuvent différer d'une personne à l'autre. Mais, à l'écoute attentive des âmes, sur ce point en particulier depuis une dizaine d'années, je peux retracer un certain nombre de constantes qui se vérifient dans la plupart des cas chez ceux et celles qui se sentent appelés à la mission dite du Père. Première constante, c'est une prise de conscience de plus en plus grande de l'amour et de la miséricorde du Père pour ses enfants que nous sommes. C'est une redécouverte qui s'approfondit, ou une première découverte plus approfondie, de notre relation filiale envers notre Père du ciel. Une deuxième constante que l'on retrouve chez tous ceux qui se sentent appelés, c'est un désir qui s'ensuit de souhaiter que cela soit plus connu, mieux accueilli et apprécié par tous nos frères et sœurs de la terre. Et alors naît un goût d'offrir nos services pour travailler, si le Père le veut bien, au salut de tous nos frères et sœurs de toute la terre sans exception. Pas seulement ceux que l'on connaît dans notre milieu, mais également ceux qui nous sont inconnus dans l'ensemble du monde. Une troisième constante prend de l'ampleur, c'est qu'on se sent, évidemment, devant une telle mission, humainement démuni. Et c'est à ce moment que le Père, par son esprit, nous souffle au cœur l'audace de lui demander, lui qui a toute puissance, de le faire pour nous, moyennant nos humbles actes de foi et de prière. Le goût et la confiance naissent alors de plonger dans ce qui s'appelle des ministères invisibles, qui sont ni plus ni moins que des désirs qui nous montent dans le cœur et qu'on a l'audace et la foi de présenter au Père, assuré qu'il va les accueillir et en faire son agir. Voilà donc les trois constantes qu'on retrouve immanquablement chez tous. Découverte de la grandeur de l'amour, désir que cela soit mieux connu et partagé par nos frères et offre de service pour être un instrument dans la diffusion de bienfaits immenses pour tous. Cet appel à la mission, où il nous vient en direct, au cœur, tout bonnement, alors que personne jusqu'ici ne nous en a jamais parlé. On décide alors de plonger et de procéder en circuit fermé avec ses moyens de bord et la grâce divine du fur et à mesure. Ou encore, cela peut nous venir en différé, parce qu'on en entend parler, on s'y intéresse et on découvre progressivement que cette mission nous attire vraiment. Plusieurs discernent alors qu'en fait, l'appel du Seigneur avait bel et bien été logé en leur cœur, mais qu'ils n'avaient pas encore ouvert la ligne pour y répondre et y donner suite. On peut également parler de deux types de perception, un appel d'attrait, où on s'y engage avec l'appétit déjà ouvert, on en a le goût, l'élan, ou un appel de raison, où l'appétit vient de plus en plus en mangeant, en vivant, en expérimentant. On dit oui et on se met à sa disposition. Passons maintenant au chapitre 10. Quelques critères utiles pour bien discerner son propre appel. En tout petit enfant de Dieu, la question suivante a été posée spontanément à notre bon papa du ciel. Comme je dis souvent, la requête a été envoyée directement au bureau chef. Dis-nous toi-même, Père, comment pouvons-nous bien identifier les vrais disciples appelés à la mission actuelle du Père? Voici un court extrait de la réponse reçue. Vous venez de recevoir le discernement, et ce discernement vous aidera puissamment à identifier les vrais disciples. Faites attention, une extrême attention, aux faux disciples, c'est-à-dire les sages et intelligents non appelés, qui forcent la note ou qui forcent la porte. Vous devez reconnaître dans le frère disciple de mon cœur 6 qualités, et les voici. La petitesse de l'enfant, sa pureté de cœur, son appel à se laisser dépouiller, l'invite à consacrer du temps face à mon Eucharistie. Mon vrai disciple est appelé à se laisser réconcilier avec mon amour dans toutes les situations de la vie. Enfin, le vrai disciple doit savoir qu'il collabore à la construction de la cité de la paix, de la cité de l'amour, de la cité de la gloire. C'est à ça que travaille la mission du Père. Et évidemment, on connaîtra un éclatement au retour de Jésus. Et qui choisit ses disciples pour la mission du Père? Et je continue la citation de la réponse. « Mon Fils ira chercher les disciples. Mon Fils a la puissance de les désigner par le cœur, de les regarder comme le jeune homme de l'Évangile et de les aimer. Lui-même saura les attirer à lui, les consacrer pour lui et les mandater pour la gloire du Père, donc pour la mission du Père. Faites confiance à mon Fils. Il sait tout, il peut tout. Il reçoit tout du Père et vous, faites de même, mes bien-aimés. Alors pourquoi vous préoccupez du travail de mon Fils? C'est lui qui opère puissamment, c'est lui qui transfigure, c'est lui qui construit, c'est lui qui fait reposer dans l'esprit, c'est lui qui est toujours en mission d'amour. Comme des petits enfants, donc, ne travaillez pas seuls, mais levez seulement les yeux vers votre Père et lui vous dira où courir pour trouver mes disciples. Amen. Je vois que le temps passe, nous ne pourrons pas, nous devrons malheureusement omettre aujourd'hui les chapitres 11, 12, 13 et 14. Mais rassurez-vous, nous les reprendrons volontiers au cours de la deuxième série de cassettes sur la mission du Père, celle où il sera plus spécialement question des ministères invisibles. Mes chers amis, le moment est venu de conclure. Je pourrais bien, à la vérité, me contenter de vous lire ou relire les pages 11, 12 et 13 de la brochure que vous connaissez sans doute, intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Cette brochure d'une quarantaine de pages situait dès le point de départ, en 1984, les objectifs et les caractéristiques de la nouvelle mission visible, prophétique, pastorale et communautaire des fondations. Permettez-moi de vous citer quelques lignes seulement de la page 4 de cette brochure, car elle résume très bien le tout. La mission, et je cite, « La mission conjointe des deux fondations a compté de 1984, en particulier au lendemain de la venue providentielle de Jean-Paul II en terre canadienne, il est venu quelques mois plus tard, va consister à aller proclamer et réclamer, à temps et à contre-temps, à temps auprès de ceux qui comprennent et à contre-temps auprès de ceux qui ne comprennent pas. Ce qui semble être le grand désir du Seigneur, un vrai de vrai renouveau spirituel, beaucoup plus profond qu'il ne l'est présentement, nettement communautaire et selon ses vues bien à lui cette fois, de tout ce qui s'appelle renouveau institutionnel en cours depuis Vatican II, un peu partout, à tous les niveaux, de son et notre Église. » Fin de la citation. Et comme plusieurs le savent fort bien, nous avons été, moyennant ses lumières et ses forces, très fidèles, malgré nos lacunes et nos pauvretés, à ce mandat important. Pour en revenir aux pages 11, 12 et 13 de ce document dont je parlais tantôt, vous trouverez un texte intitulé « Assurance d'un nouveau printemps ecclésial ». Un nouveau printemps ecclésial s'en vient. Il est proche, tout proche, c'est sûr et certain. Ces pages, mes chers frères et chères sœurs, contiennent, je peux maintenant en faire la confidence publique aujourd'hui, contiennent un message du Père. Ce sont ses propres paroles, ses grandes promesses, son effusion d'espérance quant à l'avenir heureux de l'Église et de son peuple. À ce moment-là, quand le message a été reçu, le Père m'avait demandé alors, à l'intime du cœur, si j'accepterais de faire mienne ses promesses à lui, en toute liberté et dans la foi, et de les proclamer en son nom, mais sous ma signature. Je n'ai jamais eu la moindre hésitation, et comme vous avez pu ou pourrez le constater, c'est ce que j'ai bel et bien fait. Bien, chers amis, nous y sommes arrivés. Le printemps ecclésial va éclater de plus en plus rapidement, clairement et fermement, sous nos yeux éblouis et ravis. Maintenant que la proclamation en public de l'existence et de l'essentiel de la mission du Père est faite avec cette première série de cassettes, telle que demandée par le Père avant la venue prochaine de Jésus, au lendemain de ce grand événement, croyez-moi, les grandes écluses célestes vont s'ouvrir et nous allons être inondés de grâce et de bienfaits. La mission du Père va se propager à la grandeur du monde et le printemps ecclésial se confirmera, etc. C'est entendu, il y aura bien ici ou là, à cause de l'orgueil sot des humains, à cause des mauvaises habitudes acquises, des blessures non encore guéries, de l'ignorance des uns, des défauts non corrigés des autres, il y aura sûrement, ici ou là, des résistances sérieuses, des oppositions parfois obstinées, des combats même épiques. Mais les vrais disciples du Père, du Fils et de l'Esprit, étant remplis d'une puissance de grâce sans précédent, devenus de vrais ambassadeurs plénipotentiaires de l'amour et de la miséricorde divine, et des exemples vivants de joie et de paix, se lanceront dans la nouvelle et dernière évangélisation avec une audace et une assurance incroyables, sûrs de sûr à la fois, du succès spirituel et de la victoire définitive dans des délais records d'ici l'an 2000 par des moyens plutôt simples mais envahis d'une onction divine irrésistible. Mes amis, chers frères et chères sœurs dans le Christ, nous qui sommes enfants choyés du Père et déjà comblés de Dieu Esprit, nous entrons donc encore plus profondément et plus activement dans la réalisation de toutes ces proclamations prophétiques de 1992. Bien des choses vont s'écrouler sous nos yeux, car nous, les humains, en désespoir de cause, au cours des siècles, nous avons souvent cherché et bâti peu à peu notre sécurité sur notre avoir, notre savoir, notre pouvoir, donc sur des réalités de la terre, réalités forcément imparfaites, éphémères et plus ou moins solides. Il est fort possible et même probable que l'humanité, y inclut l'Église, éprouve déjà ou bientôt l'impression d'être en train de tout perdre, d'être complètement dépossédée. Et j'échappe même le mot important, d'être ruiné à bien des égards. Mais c'est et ce sera l'indispensable et court tunnel à traverser pour arriver à la terre promise, où enfin nous allons trouver toute notre vraie de vraie sécurité, à tous, en même temps, à tous les points de vue, définitivement, par ce Dieu qui sera tout à tous et tout en tous. Donc une sécurité solide, impérissable, infinie, en et par celui qui seul peut et veut nous la donner, en son amour et sa miséricorde, Dieu le Père, notre Créateur, son Fils, notre Sauveur, et leur Esprit, notre Bienfaiteur insigne. Et c'est ça, tout ça, rien que ça, que la nouvelle et grande mission du Père nous réserve, elle qui est maintenant proclamée au grand jour, au vu et au su du peuple de Dieu, est confiée depuis 15 ans à cette héroïque et exemplaire messagère, à la fois vidée d'elle-même et comblée de Dieu, mission déjà accueillie et vécue par des milliers et des milliers de fidèles sur tous les continents. C'est ça l'œuvre en cours du Père. Accueillons-la dans la foi, vivons-la intensément, et tous ensemble, rendons-lui grâce de tout notre cœur. Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.